Audible Studio présente Le Prophète Blanc. L'Assassin Royal, tome 7. De Robin Hobb. Traduit par Arnaud Mounier-Lompré. Lu par Sylvain Agaès. Harout et ses fidèles rayés. Alexander et Crusade. Chapitre 1. Humbre tombe étoile. Le temps est-il la roue qui tourne, ou bien la trace qu'elle laisse? L'énigme de quelle star? Il arriva par un jour pluvieux de la fin du printemps, et déposa le vaste monde sur le seuil de ma porte. J'avais 35 ans cette année-là. À 20 ans, j'aurais considéré cet âge comme le dernier pas avant le gâtisme, mais désormais, je n'y voyais plus ni jeunesse ni vieillesse, seulement un état d'équilibre provisoire entre les deux. J'avais perdu mon inexpérience d'autrefois, mais je ne pouvais pas encore me targuer des excentricités d'un âge avancé. Par bien des côtés, je ne savais plus ce que je pensais de moi-même. Parfois, j'avais l'impression que ma vie disparaissait lentement derrière moi, s'effaçait comme des empreintes de pas sous la pluie, jusqu'à me convaincre peut-être que j'avais toujours été cet homme taciturne qui menait une existence banale dans une chaumière entre mer et forêt. Allongé sur mon lit ce matin-là, j'écoutais les petits bruits coutumiers qui m'apportaient quelquefois la paix de l'âme. Le loup respirait avec régularité devant la cheminée où le feu crépitait doucement. Je tendis vers lui la magie du vif que nous partagions pour effleurer ses pensées assoupies. Il rêvait qu'il courait parmi des collines enneigées en compagnie d'une meute. Pour œil de nuit, c'était un songe de silence, de froid et de vivacité. Je me retirais discrètement et le laissais à son bonheur personnel. Au-delà de mon fenestron, les oiseaux revenus de migration s'interpellaient en chantant. Un vent léger soufflait, et chaque fois qu'il agitait les arbres, les feuilles laissaient tomber sur l'herbe humide une averse, résidu de la pluie de la nuit précédente. Les arbres en question étaient des bouleaux blancs, et il y en avait 4. Ce n'étaient guère que des brindilles quand je les avais plantées, et à présent, leur feuillage aérien jetait une ombre agréablement légère sur la fenêtre de ma chambre. Je fermai les yeux et crus percevoir leur jeu de lumière sur mes paupières. Je n'avais pas envie de me lever. Pas tout de suite. J'avais passé une mauvaise soirée la veille, et j'avais dû y faire face seul. Mon aide, Heur, était parti courir le monde en compagnie d'Astérie presque 3 semaines plus tôt, et n'était toujours pas revenu. Je ne pouvais lui en vouloir. Ma vie austère de reclus commençait à peser sur ses jeunes épaules, et les récits d'Astérie sur l'existence qu'on menait à Castelserre, que ses talents de ménestrel rendaient encore plus vivant, suscitaient des images trop fortes pour qu'il n'y prêtât pas attention. En conséquence, et bien qu'à contre-cœur, j'avais permis à mon ami de l'emmener à Castelserre passer quelques vacances, afin qu'il participe enfin à une fête du printemps, mange un gâteau parsemé de graines de carie, assiste à un spectacle de marionnettes et, qui sait, embrasse une fille. Heur avait passé l'âge où des repas réguliers et un lit douillet suffisaient à le contenter. Je m'étais dit qu'il était temps de songer à le laisser partir, de lui trouver une place d'apprenti chez un bon charpentier ou un bon menuisier. Il montrait des dispositions à ces métiers, et plus tôt on se lance dans un art, mieux on l'apprend. Mais je ne me sentais pas encore prêt à le voir me quitter. Cependant, son départ avec Astérie allait me permettre de jouir d'un mois de paix et de solitude, qui m'obligerait à me rappeler comment m'occuper seul de moi-même. Œil de nuit et moi, nous tiendrions mutuellement compagnie. Que demander de plus? Pourtant, ils étaient à peine en route que la petite maison m'avait paru trop calme. L'exaltation du garçon à l'idée du voyage m'avait évoqué trop vivement mes propres sentiments d'autrefois, à l'approche de la fête du printemps et des autres événements qui rythmaient l'année. Entendre parler de spectacles de marionnettes, de gâteaux à la graine de carie et de filles qu'on embrasse avait réveillé de vifs souvenirs que je croyais endormis pour toujours depuis longtemps. Peut-être ces souvenirs abritaient-ils des rêves trop forts pour les négliger. En tout cas, par deux fois, J'avais émergé du sommeil couvert de transpiration, tremblant, les muscles tétanisés. J'avais connu de longues années où mes cauchemars m'avaient laissé en paix, mais, depuis 4 ans, ma fixation d'antan était revenue. Elle allait et venait sans logique apparente. On eût presque dit que la vieille magie de l'art s'était souvenue de mon existence et cherchait à m'arracher à ma paix et à ma solitude. Les jours qui se suivaient jusque-là, aussi unis et semblables les uns aux autres que des perles sur un fil, se trouvaient rompus par son appel. Parfois, la faim de l'art me dévorait comme un chancre dévore la chair saine. En d'autres occasions, son attraction se limitait à quelques nuits où je faisais des rêves pleins de réalisme et baignés d'une atmosphère d'inassouvissement. Si le petit avait été là, j'aurais sans doute réussi à me dégager du tiraillement insistant de l'art. Mais il était parti. Et la veille au soir, donc, j'avais cédé à la dépendance invaincue que ce genre de rêve suscite. Je m'étais rendu sur la falaise qui domine la mer, j'avais pris place sur le banc que mon aide m'avait fabriqué, et j'avais étendu ma magie sur les vagues. Le loup était resté un moment assis près de moi, avec dans les yeux une expression de reproche que je connaissais bien. Je m'étais efforcé de ne pas y prêter attention. « Ce n'est pas pire que ton penchant à embêter les porcs épiques, » lui avais-je fait observer.
« Sauf qu'on peut se débarrasser de leur piquant. Ce qui te poing ne fait que s'enfoncer et s'envenimer. »
Son regard profond s'était porté au-delà de moi, alors même qu'il m'adressait cette réponse mordante. « Et si tu allais chasser un lapin ?»«
Tu as laissé partir le garçon et son arc. »
« Tu pourrais l'attraper tout seul, tu sais. » C'est ce que tu faisais autrefois.
Autrefois, tu m'accompagnais à la chasse. Et si nous y allions, au lieu de perdre notre temps en vaine recherche, quand donc accepteras-tu le fait que personne ne peut l'entendre?
Je dois essayer, c'est tout.
Pourquoi? Ma compagnie ne te suffit pas.
Elle me suffit. Tu me suffis toujours. Je m'étais ouvert davantage au lien du vif que nous partagions et avais tenté de lui faire sentir l'attraction que l'art exerçait sur moi. C'est la magie qui le veut, pas moi.
Garde-la pour toi. Je n'ai pas envie de voir ça.
Et quand j'eus barré cette partie de moi-même, il avait demandé tristement.
Nous n'en serons jamais débarrassés.
J'ignorais la réponse à cette question. Au bout d'un moment, le loup s'était couché, avait posé sa grande tête sur ses pattes et fermé les yeux. Il allait demeurer près de moi parce qu'il craignait pour moi. À 2 reprises, durant l'avant-dernier hiver, je m'étais laissé aller à artiser de façon excessive et j'avais tant consumé d'énergie physique dans ma quête mentale que je n'avais même plus eu la force de regagner la maison. Les 2 fois, Œil de Nuit avait dû aller chercher Heure. Mais à présent, nous étions seuls. Je n'ignorais pas la futilité ni la stupidité de mes efforts, mais j'étais incapable de me retenir. Tel un homme affamé qui mange de l'herbe pour combler le terrible vide de son estomac, j'avais tendu mon art et touché les vies qui passaient à ma portée. En effleurant leurs pensées, je parvenais à calmer pour un temps l'appétit ardent qui m'emplissait de néant. J'en avais appris un peu sur la famille qui était sortie pêcher par jour de vent. J'avais connu les inquiétudes d'un capitaine dont la cargaison dépassait légèrement en poids ce que son bâtiment était capable de transporter. Le second du même navire se posait des questions sur l'homme que sa fille désirait épouser. En dépit de ses belles manières, c'était un paresseux. Le mousse, lui, maudissait le sort. Ils allaient parvenir à Castelserre trop tard pour la fête du printemps. Le temps qu'ils arrivent, il ne resterait rien que des guirlandes fanées en train de brunir, accrochées aux gouttières. Il n'avait jamais de chance. Je trouvais une vague distraction dans ses perceptions. Elle me rappelait que le monde était plus vaste que les 4 murs de ma chaumière, plus étendu que les limites de mon jardin. Mais ce n'était pas comme l'art véritable. Ce que j'éprouvais ne pouvait se comparer à cet instant de complétude que l'on ressent quand 2 esprits se joignent et qu'on voit l'ensemble du monde comme une immense entité dans laquelle on n'est qu'un grain de poussière. Les mâchoires du loup fermement serrées sur mon poignet m'avaient tiré de mon état de transe.
« Allons, Ça suffit. Si tu t'évanouis ici, tu vas passer une nuit au froid et à l'humidité. Je ne peux pas te remettre sur tes pieds comme le petit. Allons, viens. »
Je m'étais levé, et les bords de mon champ de vision s'étaient obscurcis. Le phénomène avait fini par s'estomper, mais pas l'obscurité de l'esprit qu'il traînait dans son sillage. J'avais suivi le loup dans le crépuscule qui allait s'épaississant, sous les gouttes qui tombaient encore des frondaisons, jusqu'à la chaumière où le feu s'était presque éteint dans la cheminée et où les bougies s'étaient consumées en coulant sur la table. Je m'étais préparé de la tisane d'écorce elfique, bien noire et bien amère, en sachant qu'elle ne ferait qu'accroître mon accablement, mais aussi qu'elle apaiserait ma migraine. J'avais ensuite dépensé l'énergie nerveuse que procurait l'écorce en travaillant sur un manuscrit qui décrivait un jeu où l'on se servait de cailloux, accompagné des règles qui le régissaient. Déjà, à plusieurs reprises, j'avais essayé d'achever ce traité, mais j'avais renoncé, considérant l'entreprise comme irréalisable. On ne pouvait apprendre à y jouer qu'en y jouant, voilà ce que je me disais. Mais cette fois, j'avais ajouté au texte une série d'illustrations représentant les différentes phases d'une partie typique. Quand j'avais enfin mis mon manuscrit de côté, juste avant l'aube, je n'y voyais que la plus navrante de toutes mes tentatives. Je m'étais couché très tard, ou très tôt, si l'on préfère. Quand je m'éveillais, la moitié de la matinée était déjà passée. Au bout de la basse-cour, les poulets grattaient le sol en caquetant entre eux. Le coq poussa un cocorico retentissant. Je gémis. Il fallait que je me lève, que j'aille ramasser les œufs et jeter une poignée de graines aux volailles pour les empêcher de retourner à l'état sauvage. Dans le jardin, toute la végétation commençait à repartir, et je devais déjà le désherber. Je devais aussi ressemer la plate-bande de fesque dont les limaces avaient dévoré les pousses. Il me fallait encore cueillir des iris pourpres tant qu'ils étaient en fleurs. Mon précédent essai pour obtenir de l'encre s'était soldé par un échec, mais je refusais de me tenir pour battu. Il y avait aussi le bois à couper et à mettre en réserve, le gruau à préparer, l'âtre à nettoyer, et puis il me restait encore à grimper sur le frêne qui surplombait le poulailler pour couper la branche cassée avant qu'une tempête ne la fasse tomber sur les volailles.
Et il faudrait aussi nous rendre à la rivière, voir si les premières remontées ont commencé. Un peu de poisson frais ne serait pas à dédaigner.
Œil de Nuit ajoutait ses propres préoccupations à ma liste mentale. L'année dernière, tu as failli mourir d'avoir mangé du poisson pourri.
Raison de plus pour y aller maintenant, tant qu'il est frais et bondissant. Tu pourrais te servir de la lance du petit.
C'est ça, pour me retrouver trempé comme une soupe et gelé de la tête aux pieds.
Mieux vaut avoir froid et être mouillé qu'avoir faim.
Je me tournai sur le flanc et me rendormis. J'allais faire la grasse matinée pour une fois. Qui le saurait? Qui s'en inquiéterait? Les poules? Mais j'eus l'impression de m'être assoupi quelques instants à peine quand les pensées du loup me tirèrent du sommeil.
« Réveille-toi, mon frère. Un cheval inconnu arrive. »
Aussitôt, mon esprit s'éclaircit. L'obliquité du ray de lumière qui traversait ma fenêtre m'apprit que plusieurs heures s'étaient écoulées. Je me levai, enfilai une robe, la serrai à ma taille d'une ceinture et mis mes chaussures d'été. Ce n'étaient guère que des semelles de cuir munies de lanières pour les retenir à mes pieds. Je repoussai les mèches de cheveux qui me tombaient sur le visage et me frottai les yeux. « Va voir qui c'est, » demandai-je à Œil de Nuit.
« Va voir toi-même, il est presque à la porte. »
Je n'attendais personne. Astérie venait trois ou quatre fois l'an me faire une visite de quelques jours pour me rapporter les derniers ragots des six duchés, du papier fin et du bon vin. Mais Heure et elle ne seraient pas revenues aussi vite. À part elle, rares étaient ceux qui frappaient à ma porte. J'avais bien un voisin, Bellor, installé dans la combe d'à côté avec ses cochons, mais il n'avait pas de cheval. Un rémouleur passait deux fois par an, depuis qu'il avait découvert ma retraite par hasard en plein orage. Son cheval s'était mis à boiter, et la lumière de ma maison entreaperçue au milieu des arbres l'avait attiré. Dès lors, j'avais reçu la visite de voyageurs semblables. Il avait gravé un chat roulé en boule, signe d'un bon accueil, sur un arbre le long de la piste qui menait à ma cahute. J'avais découvert l'indication, mais l'avais laissée intacte afin d'inciter un visiteur occasionnel à frapper à mon nuit. L'inconnu était donc sans doute un voyageur égaré, ou bien un marchand las de la route. Je me dis qu'un hôte me ferait une agréable distraction, mais cette pensée manquait d'enthousiasme. J'entendis le cheval s'arrêter devant la maison, puis les petits bruits que fait un homme mettant pied à terre.
« Le cri !» fit le loup, avec un grondement sourd.
Je crus que mon cœur allait cesser de battre. J'ouvris lentement la porte à l'instant où le vieil homme tendait la main pour toquer. Il me dévisagea, et puis il eut un sourire rayonnant.
« Fitz, mon garçon !» Ah, Fitz!
Il écarta les bras dans l'intention de me serrer contre lui. L'espace d'un instant, je demeurais figé, incapable du moindre geste. J'ignorais ce que je ressentais, mais que mon vieux mentor me retrouve après tant d'années m'effrayait. Il devait y avoir une raison, un autre motif que la simple envie de me revoir. Cependant, j'éprouvais aussi le rétablissement d'un lien de parenté, ce soudain sursaut d'intérêt qu'Imbre avait toujours suscité chez moi. Quand j'étais adolescent à Castelserre, il me convoquait en secret la nuit, et je devais monter l'escalier dérobé qui menait à son antre, dans la tour, au-dessus de ma chambre. C'était là qu'il concoctait ses poisons, là qu'il m'avait enseigné le métier d'assassin, là qu'il m'avait irrévocablement lié à lui. Je sentais toujours les battements de mon cœur s'accélérer quand la porte secrète s'ouvrait. Et, malgré les années passées, toutes les douleurs que j'avais endurées, Imbre me faisait encore le même effet. Il était entouré d'une aura de mystère et de promesses d'aventure. C'est pourquoi, de façon impulsive, j'agrippais ses épaules voûtées et l'attirais contre moi. Le vieillard s'était de nouveau amaigri, et il était aussi anguleux que lorsque j'avais fait sa connaissance. Mais à présent, c'était moi le reclus vêtu d'une robe usée en laine grise. Pour sa part, il portait des chausses bleu roi et un pourpoint de la même couleur avec des crevés dont la teinte verte faisait écho à celle de ses yeux. Ses bottes de monte étaient de cuir noir, tout comme ses gants souples. Sa cape, d'un vert assorti à celui des incrustations de son pourpoint, était bordée de fourrure. Et de la dentelle blanche décorait son col et ses manches. Les cicatrices, qui grêlaient son visage et l'humiliaient tant autrefois, qu'il avait renoncé à se montrer en public, n'apparaissaient plus que comme des tachetures pâles sur son visage hâlé. Sa chevelure blanche tombait sur ses épaules et formait des boucles sur son front. Ses clous d'oreilles était orné d'émeraudes, et une pierre semblable était plantée au milieu du bandeau d'or qu'il portait au cou. Le vieil assassin sourit d'un air narquois en me regardant examiner sa splendeur.
« Ah, mais c'est que le conseiller d'une reine doit se vêtir selon son rôle, s'il veut jouir du respect que sa souveraine et lui-même méritent dans leurs négociations. »
« Je comprends, » dis-je d'un ton défaillant. Puis je me repris. « Entrez, entrez donc. Vous allez sans doute trouver mon logis un peu moins élégant que ce à quoi vous êtes manifestement accoutumé, mais vous êtes tout de même le bienvenu. »«
Je ne suis pas venu chipoter sur ta maison, mon garçon. Je suis venu te voir. Toi. »«
Mon garçon, » répétai-je à mi-voix en souriant et en le faisant entrer.
« Ah ben, toujours peut-être pour moi. C'est un des avantages du grand âge. » « Je peux appeler qui je veux comme je l'entends, et personne n'ose me contredire. Tiens, je vois que tu as toujours le loup. Œil de nuit, c'est bien ça. Tu commences à vieillir, œil de nuit. Je ne me rappelle pas tous ces poils blancs sur ton museau. Allons, viens par ici, fais-moi plaisir. Ah, Fitz, veux-tu bien t'occuper de mon cheval ?» J'ai passé toute la matinée en selle, après une nuit dans une auberge absolument épouvantable. Je ne suis plus aussi souple qu'autrefois, tu sais. Ah, et puis apporte-moi mes fontes, veux-tu. Tu seras gentil.
Et il se courba pour gratter les oreilles du loup, dos à moi, certain que j'allais lui obéir, ce que je fis en souriant, à part moi. La jument noire qu'il montait était un bel animal au caractère amène et docile. Il y a toujours du plaisir à soigner une bête de cette qualité. Je lui donnai amplement à boire, lui fournis un peu du grain dont je nourrissais mes poules, puis l'amenai dans l'enclos désert de la ponette. Les fontes que je rapportais à la chaumière étaient lourdes, et j'entendis dans l'une d'elles un clapotis prometteur. Quand je rentrai, je trouvai Humbre dans mon étude, assis à mon bureau, plongé dans la lecture de mes écrits, comme si c'était les siens.
« Ah, te voici. Merci, Fitz. Dis-moi, il s'agit bien du jeu des cailloux, n'est-ce pas ? Celui que Caudron t'a enseigné pour t'aider à détourner ton esprit de la route d'art. C'est passionnant. J'aimerais avoir ton traité quand tu l'auras achevé. »
Si ça vous fait plaisir, répondis-je à mi-voix. Je me sentis un instant mal à l'aise. Humbre me jetait à la figure des expressions et des noms que j'avais enfouis dans ma tête et auxquels je n'avais plus touché depuis longtemps. Caudron, la route d'art. Je les repoussais dans le passé. Il n'y a plus de Fitz, déclarai-je d'un ton affable. Je m'appelle maintenant Tom Blaireau.
Ah !
Du doigt, je désignais la mèche blanche de mes cheveux, résultat d'une vieille blessure. Oui, à cause de ça, c'est un nom facile à retenir. Je raconte aux gens que je suis né avec cette mèche et que c'est elle qui a incité mes parents à me baptiser ainsi.
« Je vois, » répondit-il d'un ton neutre. « Eh bien, ça se tient, mais c'est judicieux. »
Il se laissa aller contre le dossier de mon fauteuil en bois, qui craqua sous le mouvement.
« Il y a de l'eau-de-vie dans ces fontes. Si tu as des gobelets, tu trouveras aussi quelques gâteaux au gingembre de la vieille Sarah. Je parie que tu ne t'attendais pas à ce que je me souvienne de ton penchant pour eux. Ils sont sans doute un peu écrasés, mais c'est le goût qui compte. »
Le loup s'était déjà redressé, et assis, il posa son museau sur le bord de la table, pointé droit sur les sacs. Ainsi, Sarah est toujours cuisinière à Castelserre, demandai-je, tout en cherchant deux gobelets présentables. Ma vaisselle ébréchée ne me dérangeait pas, mais j'éprouvais soudain de la répugnance à la montrer à Humbre. Il quitta l'étude pour s'approcher de la table de la cuisine.
« Non, plus vraiment. Ses vieilles jambes ne lui permettent plus de rester debout trop longtemps. Elle a un grand fauteuil rembourré sur une estrade dans un coin des cuisines, et c'est de là qu'elle donne ses ordres. Elle prépare encore ce qu'elle préférait, les pâtisseries à la crème, les gâteaux aux épices et les friandises. C'est un jeune homme du nom de Daff qui s'occupe des repas quotidiens aujourd'hui. »
Il vidait les fonds tout en parlant. Il en tira deux bouteilles d'eau-de-vie de bord des sables. Il y avait une éternité que je n'y avais plus goûté. Et les gâteaux au gingembre, un peu écrasés comme prévu. Du linge qui les enveloppait tomba une pluie de miettes. Le loup huma soigneusement l'air, puis se mit à saliver.
« Ce sont ses préférés à lui aussi, je vois. »
fit Humbre d'un ton désapprobateur. Et il lui jeta une des pâtisseries. Le loup l'attrapa au vol et s'en alla s'installer sur le tapis devant la cheminée pour la dévorer à son aise. Les fontes livrèrent rapidement leurs autres trésors. Une liasse de papier fin, des pots d'encre bleue, rouge et verte, une grosse racine de gingembre qui commençait à germer, prête à être mise en pot pour l'été. Quelques paquets d'épices, une tome de fromage affiné, luxe rare pour moi, et dans un petit coffre en bois, d'autres objets qu'étrangement je reconnus tout en ne les reconnaissant pas, de petits objets que je croyais perdus depuis longtemps. Une bague ayant appartenu au prince Rurisque du royaume des montagnes, la pointe de la flèche qui lui avait transpercé la poitrine et avait failli causer sa mort. Une petite boîte en bois que j'avais fabriquée moi-même bien des années plus tôt pour y ranger mes poisons. Je l'ouvris. Elle était vide. Je rabattis le couvercle, posai la boîte sur la table, puis regardai Humbre. Sa visite n'était pas simplement celle d'un vieil homme à son ancien apprenti. Il menait derrière lui tout mon passé, comme une femme sa queue en broderie dans une salle de réception. En le laissant franchir mon seuil, j'avais fait entrer mon ancien monde avec lui. Pourquoi ? Demandai-je à mi-voix. Pourquoi venir me revoir après tant d'années ?
Ah ! Ah !
Humbre tira une chaise près de la table et s'assit avec un soupir. Il déboucha l'eau-de-vie et nous servit.
Les raisons ne manquent pas. J'ai vu ton aide en compagnie d'Astérie, et je l'ai aussitôt identifié. Non qu'il te ressemble, pourtant pas plus qu'Orti à Burik, mais il avait tes manières. La même façon que toi de rester en retrait pour observer quelque chose, la tête penchée ainsi, avant de décider s'il va se jeter à l'eau ou non. Il m'a tellement fait penser à toi au même âge que...
Je l'interrompis. Vous avez vu Orti. Ce n'était pas une question.
Naturellement,
affirma-t-il calmement.
Veux-tu que je te parle d'elle?
Je n'osais pas répondre. Tous mes vieux instincts de prudence m'incitaient à ne pas témoigner un trop grand intérêt envers elle. Cependant, j'éprouvais en même temps le picotement d'une prémonition. Celle qu'Orti, ma fille que je n'avais jamais aperçue que dans des visions, était le sujet de la visite d'Imbre. Je baissai les yeux vers mon gobelet, dubitatif quant à la valeur de l'eau-de-vie au petit-déjeuner. Puis, je pensai de nouveau à Orti, la petite bâtarde que j'avais abandonnée sans le savoir avant sa naissance. Et je bus une gorgée. J'avais oublié la douceur de l'eau-de-vie de bord des sables, et je sentis sa chaleur se répandre en moi aussi vite que s'éveillent chez un adolescent des idées de concupiscence. Charitable, Humbre m'épargna de devoir exprimer mon intérêt.
« Elle te ressemble beaucoup, en féminin et en plus maigre, » dit-il,
et il sourit en me voyant me hérisser.
« Mais... c'est curieux à constater. Elle ressemble encore davantage à Burik. Elle a plus ses gestes et ses habitudes de langage que ses cinq frères.
Cinq ? M'exclamai-je abasourdi. Humbre eut un sourire qui en disait long.
Cinq garçons, tous aussi respectueux et déférents envers leur père qu'on peut le souhaiter. Tout le contraire d'Orti. Elle a réussi à imiter le fameux regard noir de Burik, et elle le lui retourne quand il lui fait les gros yeux, ce qui arrive rarement. Je ne dirais pas que c'est sa préférée, mais je pense qu'elle gagne mieux ses faveurs en s'opposant à lui que les garçons avec leur respect et leur empressement à lui obéir. Elle a l'impatience de Burik, ainsi que sa claire perception de ce qui est bien ou mal. Elle possède également tout ton entêtement, mais ça... elle a pu aussi l'apprendre auprès de Burik.
Vous avez donc vu Burik ? C'était lui qui m'avait élevé, et aujourd'hui, il élevait ma fille comme si c'était la sienne. Il avait épousé la femme que j'avais apparemment abandonnée, et tous deux me croyaient mort. Ils avaient poursuivi leur existence sans moi, et, à entendre des nouvelles d'eux, j'éprouvais un mélange de douleur et d'amour. J'en chassais le goût d'une rasade d'eau-de-vie de bord des sables.
« Je n'aurais jamais pu voir Orti sans passer d'abord par Burik. Il veille sur elle comme... ma foi, comme un père. Il va bien. Sa claudication ne s'est pas arrangée avec le temps, mais comme il est rarement à pied, ça n'a pas l'air de beaucoup le déranger. Il passe son temps en selle et il élève des chevaux, comme il en a toujours eu envie. »
Il s'éclaircit la gorge.
« Tu sais, je crois que la reine et moi avons veillé à ce qu'on lui donne Rousseau et le poulain de suie. Eh bien, il gagne sa vie grâce à ces deux étalons. La jument que tu viens de déceler, Braise, vient de chez lui. Aujourd'hui, non content d'élever des chevaux, il les dresse. Il ne fera jamais fortune, car dès qu'il a de l'argent de côté, il s'en sert pour acheter une nouvelle bête ou une autre pâture. » Mais quand je lui ai demandé comment il se débrouillait, il m'a répondu « pas trop mal ».
« Et qu'a-t-il dit de votre visite ?» Je constatais avec fierté que j'arrivais à m'exprimer d'une voix claire. Humbre sourit à nouveau, mais avec une certaine tristesse dans le regard.
Après avoir surmonté le choc de ma réapparition, il s'est montré très courtois et hospitalier. Et le lendemain matin, tandis qu'il me raccompagnait auprès de mon cheval, qu'un des jumeaux, Nîmes, je crois, avait scellé pour moi, il a tranquillement juré qu'il me tuerait si jamais je tentais d'intervenir dans la vie d'Ortie. Il m'a fait cette promesse d'un ton empreint de regret, mais avec une grande sincérité. Je ne l'ai pas mis en doute venant de sa part. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que tu me la répètes.
C'est elle que Burick n'est pas son père. A-t-elle entendu parler de moi? Une foule d'autres questions se pressaient dans mon esprit, mais je les repoussais. L'avidité avec laquelle j'avais posé ces dossiers me faisait horreur, mais je n'avais pas pu résister. Cette soif de savoir, de connaître enfin les réponses au bout de tant d'années, m'évoquait la dépendance à l'art. Humbre détourna le regard et but une gorgée d'eau-de-vie.
« Je l'ignore. Elle appelle Burick papa, et elle l'aime passionnément, sans aucune réserve. Certes, il lui arrive de s'opposer à lui, mais c'est à propos de détails de leur existence plutôt que de Burick lui-même. Je crois malheureusement que ses relations avec sa mère sont plus orageuses. Ortie n'a aucun penchant pour l'élevage des abeilles ni pour les bougies, mais Molly voudrait qu'un jour sa fille reprenne son métier. Connaissant l'entêtement d'Ortie, je pense que Molly devra se rabattre sur un ou deux de ses fils. »
Il jeta un coup d'œil par la fenêtre, puis ajouta dans un murmure.
« Ton nom n'a pas été prononcé en présence d'Ortie. »
Je fis tourner mon gobelet entre mes mains. « Qu'est-ce qui l'intéresse ?»«
Les chevaux, les faucons, les épées. À l'âge qu'elle a, 15 ans, je m'attendais au moins à l'entendre parler de jeunes gens, mais elle ne paraît pas s'en préoccuper. Peut-être la femme ne s'est-elle pas encore éveillée en elle, ou bien elle a trop de frères pour nourrir des illusions romantiques sur les garçons. Elle aimerait s'enfuir à Castelserre et entrer dans une des compagnies de garde. Elle sait qu'autrefois Burick a été maître d'écurie là-bas. Un des motifs pour lesquels je suis allé le voir était la proposition que lui faisait Ketriken de reprendre son ancienne fonction. Burick a refusé. Ortie n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Moi si.
Et moi de même. Mais pendant ma visite, j'ai dit à Burick que je pouvais obtenir une place pour Ortie à Castelserre, même si lui-même ne tenait pas à y retourner. Elle aurait pu devenir mon page, à défaut de trouver une autre fonction, même si je suis convaincu que la reine Ketriken serait ravie de la prendre à son service. Donnez-lui l'occasion de se frotter à l'existence dans une forteresse et une ville. Laissez-la goûter à la vie de cour, lui ai-je dit. Burick a refusé net, et il a paru presque froissé de ma proposition.
Sans le vouloir, je poussai un discret soupir de soulagement. Humbre but une nouvelle gorgée de son eau-de-vie et me regarda fixement. Il attendait ma question suivante, qu'il connaissait aussi bien que moi. Pourquoi? Pourquoi était-il allé trouver Burick? Pourquoi avait-il offert d'emmener Ortie à Castelserre? Je bus un peu d'alcool et scrutai le vieillard devant moi. Oui, il avait pris de l'âge, mais pas comme certains hommes. Ses cheveux, désormais d'un blanc immaculé, faisaient ressortir davantage l'éclat farouche de ses yeux verts sous ses boucles de neige. Je me demandais quelle énergie il dépensait pour empêcher ses épaules voûtées de s'effondrer complètement, quel produit il prenait pour prolonger sa vigueur et ce qu'il lui en coûtait par ailleurs. Il était plus âgé que le roi Subtil, or Subtil était mort depuis de nombreuses années. Bâtard royal de la même lignée que moi, les intrigues et les conflits paraissaient le revigorer, au contraire de moi. J'avais fui la cour et tout ce qu'elle renfermait, tandis qu'Imbre avait préféré y demeurer et se rendre indispensable à une nouvelle génération de loin-voyants. Bien. Et comment se porte Patience? J'avais choisi ma question avec soin. M'entendre donner des nouvelles de la veuve de mon père était très éloigné de ce que je souhaitais, mais je comptais me servir de la réponse d'Imbre pour me rapprocher de mon but.
Dame Patience! Ma foi, il y a plusieurs mois que je ne l'ai pas vue. Plus d'un an même, maintenant que j'y pense. Elle réside à Guédenégos, tu sais. C'est elle qui gouverne le duché et elle s'en acquitte à merveille. C'est d'ailleurs curieux quand on y réfléchit. Quand elle était reine, épouse de ton père, elle n'a jamais rien fait pour s'affirmer. Une fois veuve, elle s'est contentée de jouer le rôle de l'excentrique dame Patience. Mais quand tout le monde s'est enfui, elle est devenue reine de fait, sinon de titre à Castelserre. La reine Quétriquaine a été bien avisée de lui donner un domaine personnel, car elle n'aurait plus jamais pu rester à Castelserre moins que souveraine.
Et le prince de Voir?
Il ressemble à son père autant qu'il est possible,
répondit Imbre en secouant la tête. Je scrutais son expression en me demandant quel sens il donnait à sa réponse. Que savait-il? Les sourcils froncés, il reprit.
Il faudrait que la reine lui lâche un peu la bride. Les gens parlent de devoir, comme ils parlaient de ton père, chevalerie. D'une correction impeccable, disent-ils, et ils ont presque raison. J'en ai peur.
J'avais perçu un très léger changement dans son ton. Presque, répétai-je à mi-voix. Imbre me sourit comme pour s'excuser.
Ces derniers temps, ce garçon n'est plus lui-même. Il a toujours été solitaire, mais cela est inhérent à sa position de prince et d'enfant unique. Depuis toujours, il doit se garder d'oublier son rang. Il doit faire attention de ne pas paraître préférer un compagnon à un autre, et cela l'a poussé à l'introspection. Mais, depuis peu, son humeur s'est assombrie. Il est distrait, maussade, perdu dans ses pensées, au point de n'avoir plus conscience de ce qui arrive à son entourage. Il n'est pas discourtois ni insensible, du moins pas intentionnellement, mais...
Quel âge a-t-il? 14 ans? Fis-je. À vous écouter le décrire, je ne le trouve pas très différent de Heur, dont l'attitude m'inspire à peu près les mêmes réflexions. Il faut lui laisser un peu la bride sur le cou. Il est temps qu'il quitte le nid et qu'il acquière de nouvelles connaissances auprès de quelqu'un d'autre que moi. Imbre acquiesça de la tête.
Je crois que tu as parfaitement raison. La reine Quétriquaine et moi sommes parvenus à la même conclusion concernant le prince de Voir.
Le ton qu'il avait employé éveilla mes soupçons. Je venais d'enfiler la tête dans le collet. Hein? Fis-je l'air dégagé.
Hein?
Répéta Imbre en m'imitant. Puis il se pencha pour remplir son verre d'eau-de-vie. Et enfin, il eut un sourire entendu qui me fit comprendre que le jeu était terminé.
Eh oui, tu l'as sans doute déjà deviné. Nous aimerions que tu reviennes à Castelserre pour former le prince Alar. Et Orti également, si nous arrivons à persuader Burik de la laisser partir et si elle y a quelques prédispositions.
Non, j'avais répondu promptement, avant que l'idée eût le temps de me séduire. J'ignore à quel point mon refus pouvait paraître catégorique. À peine Imbre avait-il abordé le sujet que le désir d'accéder à son souhait s'était éveillé en moi. C'était la réponse. La réponse, dans toute sa simplicité, après tant d'années. Former un nouveau clan d'artiseurs. Imbre, je le savais, possédait les manuscrits et les tablettes relatifs à la magie de l'art. Galen, le maître d'art, puis le prince royal, nous les avaient dissimulés bien des années plus tôt. Mais à présent, je pouvais les étudier, en apprendre davantage et former d'autres artiseurs, non à la façon de Galen, mais de manière convenable. Le prince de Voir aurait à sa disposition un clan d'art pour l'aider et le protéger, et moi, je mettrai un terme à ma solitude. Quelqu'un me répondrait enfin quand je tendrai mon esprit. Et mes deux enfants me connaîtraient en tant que personne, sinon comme père. Imbre n'avait pas changé. Il était toujours aussi retors. Il avait dû percevoir le dilemme qui me déchirait, et il laissa mon refus flotter seul entre nous. Tenant son gobelet à deux mains, il jeta un bref coup d'œil à son contenu, m'évoquant soudain vérité, avec une grande netteté. Ses yeux verts revinrent vers moi et se plantèrent sans hésitation dans les miens. Il ne posa pas de questions, n'exigea rien. Il lui suffisait de se montrer patient. Connaître sa stratégie ne m'en protégeait nullement. Vous savez bien que ce n'est pas possible. Vous savez tous les motifs qui m'interdisent d'accepter. Il secoua légèrement la tête.
Pas vraiment. Pourquoi faudrait-il dénier au prince de voir son droit de naissance en tant que loin-voyant?
Il ajouta plus bas.
Ou à Orti.
Son droit de naissance! J'éclatai d'un rire amer. Dites plutôt une maladie familiale, Imbre. C'est une soif, et une fois qu'on a appris comment l'étancher, cela devient un besoin. Un besoin qui peut prendre de telles proportions qu'il finit par vous obliger à emprunter les chemins qui mènent au-delà du royaume des montagnes. Vous avez vu ce qu'il est advenu de vérité. L'art le dévorait. Il a détourné cette soif à son profit, il a sculpté son dragon et s'y est déversé tout entier, ce qui lui a permis de sauver les six duchés. Mais, même s'il n'y avait pas eu de pirates rouges à combattre, vérité se serait quand même rendue dans les montagnes, dans ce lieu qui l'appelait. Telle est la fin prédestinée de tout artiseur.
« Je comprends tes craintes, » répondit Imbre à mi-voix. « Mais je crois que tu te trompes. Je crois que Galen t'a instillé cette peur de façon intentionnelle. Il a imposé des limites à ce que tu apprenais, et il t'a inspiré la peur par ses mauvais traitements. Mais j'ai lu les manuscrits sur l'art. Je n'ai pas encore débrouillé tout ce dont il parle, mais je sais qu'ils évoquent bien davantage que la simple capacité à communiquer à distance. L'art permet à un homme de prolonger sa propre vie et d'améliorer sa santé. Il peut accroître le pouvoir de persuasion d'un orateur. Ta formation. J'ignore jusqu'où tu es allé, mais je gage que Galen t'en a enseigné aussi peu que possible.
Je sentais l'enthousiasme monter dans le ton du vieil homme, comme s'il discutait d'un trésor caché.
L'art est complexe, très complexe. Certains manuscrits laissent entendre qu'il peut servir d'instrument médical. Non seulement pour détecter précisément les lésions qu'a subies un guerrier blessé, mais aussi pour en activer la guérison. Un artiseur puissant est capable de voir par les yeux d'un autre, d'entendre et de ressentir ce que l'autre entend et ressent. En outre,
Imbre. La douceur de ma voix trancha net sa péroraison. L'espace d'un instant, j'avais été indigné en apprenant qu'il avait lu les manuscrits. Il n'en avait pas le droit, m'étais-je dit, avant de reconnaître que, si sa reine les lui avait donnés à déchiffrer, il en avait davantage le droit que quiconque. Qui d'autre aurait dû les lire? Il n'existait plus de maître d'art. Cette lignée s'était éteinte. Ou plutôt, je l'avais détruite. J'avais éliminé un par un les derniers artiseurs formés, le dernier clan jamais créé à Castelserre. Ils s'étaient montrés infidèles à leur roi, et je les avais fait disparaître, eux et leur magie. La partie rationnelle de mon esprit savait qu'il valait mieux ne pas exhumer cette magie. Je ne suis pas un maître d'art, Imbre. Non seulement ma connaissance de l'art est incomplète, mais encore mon talent est erratique. Si vous avez lu les manuscrits, vous avez certainement découvert, à moins que Ketriken ne vous l'ait dit, qu'un artiseur ne peut faire pire que prendre de l'écorce elfique. Ce produit étouffe, voire détruit le talent. Je tâche de ne pas en boire, je n'aime pas ses effets. Pourtant, même l'accablement qu'il induit reste préférable à la soif de l'art. Il m'est arrivé d'en prendre régulièrement pendant plusieurs jours d'affilée, quand le besoin d'artiser se faisait trop insupportable. Je détournais les yeux de son visage à l'expression soucieuse. Quelque talent que j'ai pu avoir autrefois, il doit être à présent trop étiolé pour qu'on puisse espérer le voir renaître. D'une voix douce, Humbre observa.
« Il me semble que ce besoin que tu ressens encore aujourd'hui indique plutôt le contraire, Fitz. Je regrette d'apprendre que tu en souffres toujours. Nous n'en avions pas la moindre idée. J'avais supposé que la soif de l'art s'apparentait à la dépendance à l'alcool ou à la fumée, et qu'après une période d'abstinence forcée, le besoin irait s'amenuisant. »
Ce n'est pas le cas. Parfois, il reste assoupi pendant des mois, voire des années, et puis, sans raison apparente, il se réveille. Je fermais les yeux un instant. Parler de l'art, y penser, était aussi douloureux que presser un furoncle. Humbre, je sais que vous avez effectué tout ce chemin pour me faire votre proposition, et vous m'avez entendu la refuser. Pouvons-nous bavarder d'autre chose? Cette conversation m'est pénible. Il se tut un moment, puis, brusquement, d'un ton faussement enjoué, il répondit
« Bien sûr, j'avais prévenu Ketriken que je ne pensais pas te voir accepter notre plan. »
Il poussa un petit soupir.
« Il ne me reste plus qu'à me débrouiller avec ce que j'ai glané dans les manuscrits. Bien, j'ai dit ce que j'avais à dire. De quoi aimerais-tu parler maintenant ? Vous n'allez tout de même pas enseigner l'art à devoir en vous fondant sur ce que vous ont appris quelques vieux manuscrits ?»
J'étais presque furieux.
« Tu ne me laisses pas le choix, » fit-il observer d'un ton affable. « Vous rendez-vous compte du risque auquel vous l'exposez ? L'art capte son utilisateur, Humbre. Il attire l'esprit et le cœur comme une pierre d'aimant. Devoir n'aura plus qu'un désir. Ne faire qu'un avec lui, et s'il cède à cette attraction, ne serait-ce qu'un instant au cours de sa formation, il disparaîtra. Et vous n'aurez sous la main aucun artiseur pour le rattraper, le réunifier et le tirer du courant. »
À l'expression d'Humbre, je voyais bien qu'il ne comprenait rien à ce que je lui disais. Il se contenta de déclarer d'un air buté,
« D'après les manuscrits, le risque consiste à ne pas former une personne douée d'un fort talent pour l'art. Dans certaines occasions, de jeunes gens dans ce cas se sont mis à artiser de façon presque instinctive, mais sans la moindre idée des dangers qu'ils couraient à ne pas savoir se maîtriser. Je tends à penser qu'une connaissance même limitée serait préférable à l'ignorance totale dans laquelle se trouve le prince. »
Je m'apprêtais à répondre, puis me ravisais. Pris une profonde inspiration que je relâchais lentement. Je ne participerai pas à ce projet, Humbre. Je refuse. Je m'en suis fait la promesse il y a des années. J'étais assis à côté de Guillot, et je l'ai regardé mourir. Mais je ne l'ai pas tué, parce que je m'étais juré de ne plus être un assassin, ni un simple instrument. Personne ne me manipulera, et personne ne m'utilisera. J'ai fait assez de sacrifices. Je pense savoir mériter ma retraite. Si Ketriken et vous n'acceptez pas ma décision et ne souhaitez plus me donner d'argent, je puis m'en débrouiller. Autant parler franchement. La première fois que j'avais trouvé un sac de pièces près de mon lit, après une visite d'Astérie, je m'étais senti insulté. J'avais gardé au fond de moi ce sentiment d'affront pendant des mois, jusqu'au retour de la ménestrelle. Mais elle avait simplement éclaté de rire et m'avait expliqué que ce n'était pas un pourboire qu'elle m'avait laissé pour mes services, si c'était là ce que je croyais, mais une pension que me versaient les six duchés. J'avais alors dû m'avouer que ce qu'Astérie savait de moi, Humbre le savait aussi. C'était lui qui me fournissait le papier fin et les encres de qualité que ma visiteuse m'apportait parfois, et elle lui faisait sans doute son rapport chaque fois qu'elle retournait à Castelserre. À l'époque, je m'étais convaincu que cela ne me dérangeait pas. Mais aujourd'hui, je me demandais si Humbre ne m'avait pas manifesté autant d'intérêt durant toutes ces années, uniquement dans l'attente du jour où je pourrais lui servir. Il dut lire ma pensée sur mes traits.
« Fitz, Fitz, du calme. »
Il me tapota la main d'un geste rassurant.
« La reine et moi n'avons jamais rien évoqué de tel. Nous savons tous deux non seulement ce que nous te devons, mais aussi ce que les six duchés dans leur ensemble te doivent, et ils subviendront à tes besoins toute ta vie. Quant à la formation du prince de Voir, n'y pense plus. Cela ne te concerne plus vraiment. »
Une fois de plus, je me demandais ce qu'il savait de ma parenté avec Devoir, puis je m'endurcis. En effet, cela ne me concerne plus vraiment. Tout ce que je puis faire, c'est vous avertir de vous montrer prudent.
Allons, Fitz, ne sais-tu pas que la prudence est ma vertu cardinale?
Et je vis ses yeux sourire au-dessus du bord de son gobelet. Je m'efforçais de penser à autre chose, mais m'interdire de jouer avec l'idée revenait à essayer d'arracher un arbre du sol en le tirant par les racines. D'une part, je craignais que l'inexpérience d'Imbre ne mette le jeune prince en danger, et d'autre part, et c'était de loin le plus important, je me rendais compte que ce qui sous-tendait mon désir de former un nouveau clan était simplement que cela me fournirait un moyen de satisfaire ma propre dépendance. Cela posé, je ne pouvais pas, en toute bonne conscience, transmettre cette soif insatiable à une nouvelle génération. Imbre tint parole, il n'évoqua plus une fois l'art. Non, nous parlâmes des heures durant des gens que j'avais connus autrefois à Castelserre et de ce qu'il était advenu d'eux. L'âme était désormais grand-père. Brodette souffrait tant de ses rhumatismes qu'elle avait dû finalement renoncer à ses éternels travaux de dentelle. Pogne occupait à présent la fonction de maître d'écurie de Castelserre. Il avait épousé une femme de l'intérieur, aux cheveux d'un roux ardent et au tempérament assorti. Tous leurs enfants étaient roux eux aussi. Elle tenait la bride serrée à Pogne, lequel, selon Imbre, semblait s'en porter fort bien. Depuis quelque temps, elle le relançait sans cesse pour retourner à Bauges, son duché d'origine, et il paraissait enclin à lui obéir. D'où le voyage d'Imbre pour voir Burick et lui proposer de reprendre son ancien poste. Ainsi, peu à peu, il ôta les strates qui s'étaient formées sur ma mémoire et fit revivre quantité de visages d'autrefois dans mon esprit. Cela me donnait l'envie douloureuse de revenir à Castelserre, et j'étais dans l'incapacité de retenir mes questions. Quand nous eûmes passé en revue mes fréquentations d'antan, je lui fis faire le tour du propriétaire, en songeant que nous devions ressembler à deux vieilles cousines qui se rendent à visite. Je lui montrai mes poules, mes bouleaux, mon potager et mes promenades. Je lui montrai aussi mon atelier, où je préparais les teintures et les encres colorées que Heur vendait au marché. Cette dernière étape le surprit.
« Je t'ai apporté des encres de Castelserre, mais je me demande maintenant si les tiennes ne sont pas de meilleure qualité. »
Il me tapota l'épaule, tout comme autrefois il le faisait quand je concoctais un poison correctement, et je me sentis envahi du même sentiment de plaisir devant sa fierté. Au cours de la visite, il en vit sans doute bien davantage que je ne l'avais prévu. Quand il observa mes plates-bandes d'herbes médicinales, il remarqua probablement la prépondérance parmi elles de sédatifs et d'insensibilisants. Lorsque je l'amenais à mon banc qui surplombait la mer, il dit même à mi-voix
« Oui, vérité l'aurait apprécié. »
Pourtant, malgré ce qu'il vit et ce qu'il devina, il ne dit pas un mot sur l'art. Nous veillâmes tard ce soir-là, et je lui enseignai les rudiments du jeu des cailloux de Caudron. Au bout d'un moment, nos longs bavardages ennuyèrent Œil de Nuit qui s'en alla chasser. Je perçus une légère jalousie chez lui, mais résolus de régler cela plus tard. Quand nous rangeâmes le jeu, je fis obliquer la conversation sur Imbre lui-même et sa santé. En souriant, il avoua qu'il appréciait son retour à la cour et à la société. Il me parla de sa jeunesse comme il l'avait rarement fait. Il avait mené joyeuse vie avant l'accident, où, à la suite d'une erreur de manipulation d'une potion, il s'était retrouvé le visage grêlé et avait conçu une telle honte de son nouvel aspect qu'il s'était retiré dans une vie discrète d'assassin royal. Au cours des dernières années, il avait apparemment repris l'existence du jeune homme qui aimait tant à danser et à participer à des soupers privés en compagnie de dames à l'esprit vif. J'en étais heureux pour lui. Et c'est en plaisantant que je lui demandais « Mais comment ménagez-vous vos activités discrètes et toutes ces réceptions et ces divertissements ?» Il me répondit avec franchise
« Je me débrouille. En outre, mon apprenti actuel s'avère intelligent et habile. Le temps ne devrait plus être loin où je pourrais remettre ces vieilles tâches entre de jeunes mains. »
Curieusement, je connus un instant de jalousie à l'idée qu'il avait pris quelqu'un pour me remplacer. Aussitôt après, je me rendis compte de ma stupidité. Les loin-voyants auraient toujours besoin d'un homme capable d'appliquer la justice du roi sans se faire remarquer. J'avais déclaré que plus jamais je n'exercerais la fonction d'assassin royal, mais cela n'entraînait pas que la nécessité d'un tel poste eût disparu. Je m'efforçais de me ressaisir. Ainsi, les mêmes vieilles expériences et les mêmes vieilles leçons se poursuivent dans la tour. Il acquiesça d'un air grave.
« Oui, tiens, à ce propos. »
Il quitta brusquement son fauteuil près du feu. Par l'effet d'une longue habitude ressuscitée, nous avions repris nos places coutumières, lui installé dans un fauteuil devant la cheminée, et moi sur la pierre d'âtre à ses pieds. C'est seulement à cet instant que je pris conscience de la singularité de la scène et m'étonnais de son naturel. Je secouai la tête à part moi, tandis qu'Imbre fouillait les fontes posées sur la table. Il finit par en tirer une outre tachée en cuir dur.
« J'avais apporté ceci pour te le montrer, mais à bavarder de choses et d'autres, j'ai failli l'oublier. Tu te rappelles ma passion pour les feux et les fumées artificielles, et tout ce genre de choses. »
Je levai les yeux au ciel. Sa passion nous avait roussi plus d'une fois. Je chassais de mon esprit le souvenir de la dernière fois où j'avais été témoin de son art du feu. Il avait réussi à faire émettre une flamme bleue et crachotante aux torches de Castelserre le soir où le prince royal s'était indûment proclamé héritier direct de la couronne des loin-voyants. Ce même soir avait vu l'assassinat du roi subtil et ma propre arrestation. Si Imbre fit le même rapprochement, il n'en montra rien. Il revint d'un pas pressé auprès du feu, son outre à la main.
« Aurais-tu une papillote? Je n'en ai pas apporté. »
Je lui trouvai du papier, et je l'observai d'un air dubitatif qui en découpait une longue lanière, la pliait dans le sens de la longueur, puis tapotait avec minutie son outre pour en faire tomber une mesure de poudre au fond du pli. Soigneusement, il l'enferma en repliant le papier sur elle, puis en le pliant encore une fois, et enfin en faisant un tortillon de l'ensemble.
« À présent, regarde !» me dit-il avec ardeur.
J'ouvris grand les yeux, non sans émoi, et il plaça la papillote dans le feu. J'ignore quel était l'effet attendu, éclair, gerbe d'étincelles ou émission de fumée, mais il ne se passa rien. Le papier vira au brun, s'enflamma et se consuma en dégageant une vague odeur de soufre. Ce fut tout. Je me tournai vers Imbre, les sourcils levés.
« Ce n'est pas normal !»
s'exclama-t-il exaspéré. À geste vif, il fabriqua une nouvelle papillote, mais en l'emplissant plus généreusement de poudre, puis il la plaça dans la partie la plus incandescente du feu. Je me reculai, prêt à tout, mais nous connûmes une nouvelle déception. Je me passai la main sur les lèvres pour dissimuler le sourire qui suscitait l'expression dépité d'Imbre.
« Tu vas croire que j'ai perdu la main !» fit-il.
« Loin de moi cette idée !» me récriai-je en m'efforçant, non sans difficulté, de chasser tout amusement de mon ton. Cette fois, la papillote qu'il prépara s'apparentait davantage à un gros tube, et elle perdait de la poudre par les deux bouts quand il la referma d'une torsion. Je m'éloignai de la cheminée quand il la déposa au milieu des flammes. Mais, comme précédemment, elle se contenta de se consumer entièrement. Imbre émit un grognement mécontent. Il jeta un coup d'œil dans le col de la petite outre, puis il la secoua. Avec une exclamation exaspérée, il la reboucha.
« La poudre a dû prendre l'humidité. Eh bien, voilà ma surprise gâchée !»
Il jeta l'outre dans le feu, geste de grande colère chez Imbre. Comme je me rasseyais près de l'âtre, je perçus l'acuité de sa déception et ressentis un pincement de compassion pour le vieil homme. Je m'efforçais de passer du baume sur son amour-propre meurtri. Ça me rappelle le jour où j'ai confondu poudre à fumer et poudre de racine de lancette. Vous vous en souvenez? J'en ai eu les yeux qui pleuraient pendant des heures. Il éclata de rire.
« Ah oui, c'est vrai !»
Puis il se tut un moment, souriant, perdu dans ses pensées. Je le savais, son esprit était retourné au temps où nous travaillions ensemble. Soudain, il se pencha et posa la main sur mon épaule. «
Fitz, » fit-il d'un ton grave, les yeux plantés dans les miens, « je ne t'ai jamais menti, n'est-ce pas ? J'ai été loyal. Je t'ai expliqué dès le début ce que je t'enseignais. »
Je sentis alors la cicatrice qui courait entre nous. Je mis ma main sur la sienne. Les articulations de ses doigts étaient saillantes, sa peau fine comme du papier. Les yeux plongés dans le feu, je répondis. « Vous avez toujours été franc avec moi, Imbre. Si quelqu'un m'a menti, c'est moi-même. » Nous servions tous les deux notre roi, et nous faisions le nécessaire pour obéir à cette responsabilité. Je ne reviendrai pas à Castelcerf, mais non parce que vous m'avez fait du tort. À cause de celui que je suis devenu et rien d'autre. Je ne vous en veux de rien. Je me retournai vers lui. Il affichait une expression grave, et je lus dans ses yeux ce qu'il ne m'avait pas dit. Je lui manquais. S'il avait demandé mon retour à Castelcerf, c'était autant pour lui-même que pour toutes sortes d'autres motifs. Je connus alors une petite mesure de mieux-être et de paix. Quelqu'un, Imbre en tout cas, m'aimait encore. Sous le coup de l'émotion, ma gorge se serra. J'essayai de prendre un ton badin. « Vous n'avez jamais prétendu que devenir votre apprenti m'assurerait une existence calme et sans risque. » Comme pour confirmer cette déclaration, un éclair jaillit brusquement de mon feu. Si je n'avais pas eu le visage tourné vers Imbre en cet instant, je me serais peut-être retrouvé aveugle. En l'occurrence, je vis une lumière éblouissante et une explosion semblable à un coup de tonnerre m'assourdit. Des braises et des étincelles me brûlèrent et le feu poussa un rugissement d'animal enragé. Nous bondîmes de nos places comme un seul homme et nous éloignâmes en toute hâte de la cheminée. Un instant plus tard, une chute de suie due au conduit mal entretenu étouffa presque entièrement les flammes. Imbre et moi nous mîmes à courir dans toute la pièce pour éteindre du talon les escarbilles incandescentes et renvoyer à coups de pied les morceaux de loutre en feu avant que les flammes ne se propagent au plancher. La porte s'ouvrit violemment sous l'impact d'œil de nuit, qui s'arrêta après avoir griffé le sol pour freiner sa glissade.
« Je vais bien, je vais bien !»
lui assurai-je, avant de me rendre compte que je hurlais. La détonation m'avait à demi assourdi. Œil de nuit eut mal l'odeur qui régnait dans la maison et poussa un grognement dégoûté. Puis, sans même partager une pensée avec moi, il ressortit avec hauteur dans la nuit. Tout à coup, Imbre me frappa violemment l'épaule à plusieurs reprises.
« J'éteignais une braise !»
m'assura-t-il d'une voix trop forte. Il nous fallut quelque temps pour remettre la pièce en ordre et refaire le feu à sa place légitime. Malgré tout, Imbre tira son fauteuil en retrait de la cheminée, et j'évitai de m'asseoir près de l'âtre. « Était-ce l'effet prévu de cette poudre ? » demandai-je, avec un peu de retard quand nous fûmes à nouveau installés, un verre d'eau-de-vie de bord des sables à la main.
« Par la barbe de ça, pas du tout, mon garçon. » Crois-tu que j'aurais jeté mon outre dans ta cheminée si c'était le cas? Ce que j'obtenais jusque-là, c'était un éclair de lumière blanche, presque aveuglant. La poudre n'aurait pas dû réagir ainsi. Mais d'où venait cette réaction? Qu'est-ce qui avait changé? Ah, zut! Quel dommage que je n'arrive pas à me rappeler ce que j'avais mis dans cet outre précédemment.
Il fronça les sourcils et plongea un regard farouche dans les flammes. Je compris alors que son apprenti allait être mis à contribution pour résoudre l'énigme de cette explosion, et je ne lui enviais pas les séries d'expériences qui s'en suivraient certainement. Mon vieux mentor passa la nuit dans ma chaumière. Prenant mon lit, tandis que je m'arrangeais de celui dehors. Mais, quand nous nous réveillâmes le lendemain, nous sûmes que sa visite touchait à sa fin. Nous avions épuisé tous les sujets de discussion, et parler de la pluie et du beau temps nous paraissait bien futile. Une sorte d'accablement me saisit. Quel intérêt aurais-je à demander des nouvelles de gens que je ne reverrai plus jamais? Pourquoi m'entretiendrait-il de l'état des intrigues politiques alors qu'elles n'avaient plus aucune incidence sur mon existence? Le temps d'un long après-midi et d'une soirée, nos vies s'étaient entrecroisées de nouveau, mais à présent que le jour gris pointait, il me regardait effectuer mes corvées journalières, tirer de l'eau, jeter du grain à mes volailles, préparer le petit déjeuner pour deux et laver ma vaisselle ébréchée dans un silence gêné qui semblait nous éloigner encore l'un de l'autre. J'en arrivais presque à regretter sa venue. À la fin du petit déjeuner, il m'annonça qu'il devait partir, et je ne cherchais pas à l'en dissuader. Je lui promis de lui faire parvenir mon traité sur le jeu des cailloux une fois que je l'aurais achevé, et je lui remis plusieurs vélins que j'avais rédigés sur le dosage des tisanes sédatives, ainsi que quelques racines à planter des rares herbes de mon jardin qu'il ne connaissait pas. Je lui donnai aussi plusieurs fioles contenant des encres de couleurs variées. Le seul effort qu'il fit pour tenter de me faire changer d'avis se borna à me faire remarquer qu'il existait à Castelserre un meilleur marché pour ce genre de produits. Je hochai la tête et répondis que j'y enverrais peut-être heure un jour. Puis je scellai sa superbe jument, la harnachai et la lui amenai. Il me serra dans ses bras, mit le pied à l'étrier et s'en alla. Je le suivis des yeux tandis qu'il descendait le chemin. À côté de moi, Œil de Nuit glissa la tête sous ma main. « Tu as des regrets ?»« J'ai beaucoup de regrets. Mais je sais que, si je l'accompagnais et faisais ce qu'il souhaite, j'en aurais encore bien davantage. Pourtant, il m'était impossible de me détourner, de quitter Ambre des yeux. Je me tentais moi-même en me disant qu'il n'était pas trop tard, que, sur un simple cri de ma part, il ferait demi-tour. Je serrai les dents. Œil de Nuit poussa ma main du bout du museau. « Allons, partons chasser. Pas d'aide, pas d'arc, rien que toi et moi. »« Bonne idée, » m'entendis-je répondre. Nous chassâmes donc, et nous attrapâmes même un beau lapin de printemps. Quel plaisir d'étirer mes muscles et de prouver que j'en étais encore capable. Je jugeais que je n'étais pas encore vieux et que, à l'instar de Heure, j'avais besoin de sortir, d'avoir de nouvelles activités, d'apprendre une nouvelle discipline. C'était toujours ainsi que patience combattait l'ennui. Ce soir-là, je regardais ma chaumière et la trouvais étouffante plutôt que douillette. Ce qui était familier et rassurant quelques jours plus tôt me paraissait à présent nu et terne. Je savais que c'était dû au contraste entre les anecdotes d'Ambre sur Castelserre et ma propre existence racise, mais l'envie de bouger, une fois éveillée, est un stimulant puissant. J'essayais de me rappeler à quand remontait la dernière fois où j'avais dormi ailleurs que dans mon lit. Ma vie était parfaitement réglée. À la fin de l'été, chaque année, je prenais la route un mois durant et trouvais à me faire embaucher pour les foins, les moissons ou le ramassage des pommes, ce qui m'assurait un petit appoint d'argent bienvenu. Je me rendais deux fois l'an à Hausbaie, troquais mes encres et mes teintures pour tissus contre des vêtements, des casseroles et d'autres articles du même genre. Mon existence était enfoncée dans une ornière si profonde que je ne m'en étais même pas aperçu. « Eh bien, que veux-tu faire ?» Œil de Nuit s'étira, puis bâilla résigné. « Je n'en sais rien, » avouai-je au vieux loup. « Quelque chose de différent. Ça te dirait d'aller voir un peu le vaste monde ?» Pendant quelque temps, il se retira dans la partie de son esprit qui n'appartenait qu'à lui. Puis, il demanda d'un ton un peu irrité. « Irions-nous, tous les deux, à pied, ou bien faudrait-il que je suive l'allure d'un cheval toute la journée ?»« Tu as raison de poser la question. Si nous voyagions tous les deux à pied,
Si, tu dois y aller, fit-il à contre-cœur. Tu penses à ce fameux endroit des montagnes, n'est-ce pas?
L'ancienne cité?
Oui. Il n'émit pas d'objection. Comptes-tu emmener le petit?
Je crois que nous laisserons Heur se débrouiller seul ici un moment. Ça peut lui faire du bien. Et puis, il faut que quelqu'un s'occupe des poules.
Donc, je suppose que nous ne partirons qu'après le retour du petit.
J'acquiesçais, tout en me demandant si j'avais complètement perdu la tête, et si nous reviendrions de notre voyage.